Ok, dans C'est que le cinéma miracle aujourd'hui, le très cinéma miracle, c'est de parler sur comment marcher dans l'atmosphère du royaume de Dieu, en parole et en action. Et c'est un peu un thème difficile à partager parce que moi, je suis aussi, ça m'interpelle aussi, ça m'interpelle, ça me parle vraiment, et alors, je suis vraiment concentré, vraiment concerné dans cela. Mais que le Seigneur soit au contrôle et nous aide à comprendre ce qu'il veut dire. Je vais prier un peu de nom, prier du Saint-Esprit, pour qu'il soit au contrôle. Saint-Esprit, viens prendre contrôle. Je prie, Seigneur, que tu m'utilises comme un vase, comme un vaisseau, Seigneur, que ce que je suis prêt à prévu, pour ce temps, Seigneur, que tu me reverses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que j'ai des notes, mais c'est même pas mon plan B, ce sera maintenant mon plan Z. Que c'est toi qui sois contrôlé, que c'est ta parole qui soit première. Je remercie après tout ce temps dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Donc, beaucoup de chrétiens souvent, nous, nous avons tendance, bien dans le passé, bien ceux qui sont encore dans la marche avec Christ, souvent peuvent toujours opérer avec une atmosphère terrestre. C'est-à-dire, en fait, ils sont du royaume de Dieu, accepté Jésus-Christ, en ce moment, Seigneur, mais en fait, l'atmosphère à laquelle ils opèrent, c'est l'atmosphère terrestre. Pourtant, ils sont appelés d'opérer dans une atmosphère divine, parce que maintenant, ils sont du royaume de Dieu, ils sont nés dans le royaume de Dieu. Bon, un vrai chrétien, né dans le royaume de Dieu, mais ils doivent opérer dans cette atmosphère. Mais souvent, on se rend compte que ces chrétiens n'opèrent pas dans cette atmosphère. Donc, c'est-à-dire, les paroles qui sortent souvent de leur bouche sont des paroles, en fait, qui sortent de la chair. Les actions qu'ils sont en train de poser, ce ne sont pas, ces actions ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, mais en fait, c'est conduit par la chair. Et quand on parle des atmosphères, c'est-à-dire des disputes. Donc, vous pouvez entrer dans une maison, vous sentez que l'atmosphère est tendue. Pourtant, ce sont des chrétiens qui habitent la maison, que ce soit le mari ou la femme, chrétien, baptisé, confirmé. Mais il y a une atmosphère qui est vraiment tendue, une atmosphère de dispute. Donc, ce sont les chrétiens qui opèrent toujours de l'atmosphère terrestre. Moi, on est appelé d'opérer dans une atmosphère qui est divine. Et souvent, il y a même des chrétiens. S'ils ne disent pas qu'ils sont chrétiens, on ne peut même pas savoir. Donc, quand on peut être dans l'atmosphère divine, en fait, il y a cette atmosphère est relâchée dans l'environnement, c'est que ce soit des gens, que ce soit aussi la nature, savent qu'en fait, il y a un enfant de Dieu qui est présent, il y a un enfant de Dieu qui a pris possession de lui. On peut regarder le cas de Jésus-Christ, on va voir plus tard. Quand il était quelque part, il savait qu'il y avait la lumière. Il y avait une lumière qui était dégagée. Mais beaucoup, on ne voit pas cela. Donc, on a appelé à marcher dans cette atmosphère. Une atmosphère qui est divine. En parole, en action, et aussi en puissance. Peut-être par la puissance prochaine. Donc, et cette atmosphère, en fait, ça doit nous suivre. Ça doit nous presser. C'est de nous devons être entourés de cette atmosphère. Un exemple, c'est Jésus-Christ en Jean 1,51. Jésus qui dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, quand on parle d'une atmosphère divine, c'est-à-dire qu'il y a le mouvement des anges qui monte et qui descend tout le temps. Donc, quel que soit l'endroit où on est, il y a des anges qui sont là. Il y a des anges qui sont en train d'opérer. Paul, il parle dans 2 Corinthiens, 2, 14 à 16, on va parler de cela. Il parle d'une odeur de repentance, la bonne odeur de Christ. Donc, il dit partout où on va, on doit repentir cette odeur. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas ce fragment, qui n'ont pas cette odeur, qui ne repentent pas l'odeur de Christ. Et pourtant, on est appelé Et le fameux commandant Murphy dans cela. Commandant Murphy avec une atmosphère divine. Comment opérer dans une atmosphère divine? Comment avoir cette odeur de Christ qui doit être répandue partout où on est? Parce que quand on repart l'odeur de Christ, il doit avoir des transactions. Il doit avoir des mouvements d'âme. Donc maintenant, on peut opérer dans le nom du Seigneur. Le problème, c'est que beaucoup oublient le Seigneur. Ils opèrent en leur propre nom. Comment opérer dans cette atmosphère? Il y a aussi un autre cas, il y a beaucoup qui peuvent aussi, qui peuvent opérer, qui peuvent opérer dans l'atmosphère divine à l'église, mais qui changent d'environnement. Ah, c'est difficile. Donc, l'environnement influence l'atmosphère et cela part. Donc, c'est juste à l'église qu'ils sont en compagnie des gens qui ont cette atmosphère, qui peuvent opérer, mais dès qu'ils sortent, c'est difficile. Donc, Paul va nous aider à répondre à cette question par sa lettre qu'il a envoyée aux Colossiens. Eh bien, aimé, les Colossiens, juste un peu background, les Colossiens, en fait, il y avait des chrétiens qui vivaient à Colosse. Et en fait, et ces chrétiens, ils vivaient aussi les situations similaires à laquelle nous vivons maintenant. Donc, pendant les écrits, il les envoie une lettre pour résoudre certains de ces problèmes. Et dans les environnements, ces chrétiens, en fait, avant qu'ils soient chrétiens, c'était des noms, c'était en fait des Grecs, et aussi certains Juifs. Et ils avaient une culture où ils faisaient des cultes, qu'elles soient au Dieu des Égyptiens, au Dieu du soleil, au Dieu de la lune, le Dieu de la fertilité. Donc, ils étaient vraiment dans cela. Ils pouvaient louer plusieurs dieux. C'était aussi, ils ont aussi des cultes à l'empereur. Donc, c'était la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils ont donc connu Jésus-Christ. Ils ont accepté Jésus-Christ. Mais beaucoup étaient toujours dans des questions. Mais comment vivre en Jésus-Christ? Les questions qu'ils avaient, est-ce qu'on doit toujours manger certains aliments? Les rituels à faire, est-ce qu'on doit suivre le sabbat? Est-ce qu'on doit suivre les fêtes des Juifs? Est-ce qu'on doit louer les anges? Il faisait aussi face à beaucoup de positions. Ils étaient dans les tribulations parce que maintenant, les familles qu'ils avaient quittées, l'environnement qu'ils avaient quitté, cherchaient à les faire revenir dans la société, à les faire revenir dans les anciennes choses. Et c'est ce que les chrétiens vivent maintenant. Mais Paul va nous les envoyer une lettre. Et dans cette lettre, on va se focaliser comment Paul leur montre comment ils doivent dégager cette atmosphère, comment ils doivent vivre cette atmosphère divine. Et pour que leur environnement ne les influence pas. Donc, on va lire le verset de base, c'est Colossiens 3, verset 16. Ça dit ceci. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des sons, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Mais si pour souligner le fait que la parole de Christ doit habiter en eux abondamment. Et ça, c'est très important. Donc, c'est la parole de Dieu doit trouver un refuge, doit trouver une position dans notre cœur, un espace, doit trouver sa maison en nous. Mais pourtant, il y a beaucoup de chrétiens, en fait, qui combattent la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment même pas la parole de Dieu, qui n'aiment même pas lire. J'ai eu des occasions où je commence à faire des chants qui sont en fait des chrétiens. Ils me disent, en fait, qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. La première question que je pose, mais comment est-ce que tu fais pour connaître Jésus-Christ? Comment est-ce que tu fais pour entrer, avoir une communion avec lui, pour connaître qui il est? Et pour aussi même se lever et repousser les plans ennemis. Souvent, c'est juste par la prière, juste par la méditation. Mais c'est important parce qu'il y a un pasteur qui a dit, si un chrétien ne lit pas la parole de Dieu, c'est une mission suicide. Ce chrétien ne peut pas vraiment avancer. Parce qu'il est susceptible à être déçu par l'ennemi. Et beaucoup de personnes qui ne lisent pas, devant les doctrines sont carrément différentes de la parole. Ils sont éloignés de ce que la Bible prescrit. Et facilement, c'est Dieu par les mots. Donc ici, Paul dit la première des choses, c'est que la parole de Dieu qui est esprit et qui est vie doit vivre dans notre cœur. Et quand cette parole vit en nous, c'est une sémence. Donc ça doit avoir des fruits. Donc elle vit en nous. Ça doit influencer chaque aspect de notre vie. On se voit grandir, on doit voir des fruits de ça. Donc c'est comme si vous prenez peut-être un médicament. Vous allez voir que ce médicament va se trouver partout dans le sang. Donc c'est dissipé, on va voir la trace de ce médicament, quel que soit. Où on prend votre piqûre, on va voir ça dans le sang. La parole de Dieu doit être dissipée partout en nous. Mais beaucoup, en fait, ils compartimentent la parole de Dieu. Mais si tu la parole dans un domaine, dans un autre domaine, ils ne le font pas. Donc ça doit être, on voit les effets, on voit le fruit de cette parole partout en notre vie. Alors cette parole, c'est ça la fondation, en fait, pour dégager cette atmosphère divine. Parce que c'est de là que ça doit sortir. Le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. S'il n'y a pas cette parole, c'est difficile. Donc c'est là la fondation. Et c'est souvent là où c'est, souvent ça peut être difficile pour les chrétiens. Parce qu'ils n'aiment pas s'asseoir, ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas méditer. Mais il n'y a pas d'autre chose. Paul dit que ça commence par la parole. Parce que cette parole, à travers cette parole, il y a des choses qui vont sortir. Le verset suivant. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres à toute sagesse. Eh bien, le comment on va s'instruire et comment on va s'exhorter, ça, la parole de Dieu. C'est pas avec la parole du monde. C'est pas avec ce qu'on écoute à la télé. C'est pas avec les choses qu'on lit dans le livre. C'est avec la parole de Dieu qui est vie. C'est pour ça que c'est la clé, c'est la fondation. Ce qui doit sortir, s'il n'y a pas la parole de Dieu, que les gens se mettent ensemble. Mais ce qui part, ce sont les choses qu'ils ont attendues. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu? La télévision, les divers, les livres philosophiques, les livres créés par les gens du monde, et c'est de ça dont ils parlent. Souvent même, ça peut me dévier le sujet, ça entre dans des moqueries. Mais lui, t'es chrétien. Et pourtant, quand on a cette parole, souvent vous pouvez avoir une parole, vous dire une parole, et vous avez ce désir en fait de ressortir cette parole, de partager cette parole. Comme ça bouillonnait en vous, vous pouvez souvent trouver quelqu'un pour partager cette parole. C'est de ça que Paul parle ici. Comment exhorter d'autres personnes. Donc c'est en ayant la parole que ça, que cette exhortation doit sortir. Comment pouvoir instruire autre personne. Et ce sont des choses, en fait, spirituelles. Vous voyez, cette parole, elle est esprit, elle est vie. Donc, on doit créer cette atmosphère qu'on est avec d'autres chrétiens, qu'on est avec d'autres personnes. On les exhorte, on les instruit, on parle la parole de Dieu. Et c'est là qu'on va vous commencer à voir les fruits. Parce qu'on doit pratiquer cette parole. Donc ça, ce sont des pas qui nous permettent de manifester cette atmosphère. On a la parole, on la relâche, on la pratique, on exhorte les autres, on instruit les autres. Et le verset suivant dit. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs. L'inspiration, la grâce, des sons. Donc, ça veut dire, on doit lire ces sons, on doit chanter, vous voyez ces sons qu'ils écrivent de la Bible, en fait, c'était des chansons avant. Donc, c'était chanter. Les gens prenaient un peu les instruments pour chanter ces sons. Donc, on se remplit, ça veut dire, même de la parole, c'est une partie que ce sont les hymnes. On doit les réciter, les chanter. Des cantiques spirituels, c'est la même chose. Et, bien aimé, si vous écouter beaucoup la musique mondaine, vous allez constater qu'à un certain moment, votre cerveau va réjouir, c'est souvent d'une manière inconsciente. Donc, c'est comme ça va être réjoui dans votre cerveau et il y aura, donc, c'est comme ça va opérer un peu par rapport à les paroles qui sont dans cette parole, mais qui sont dans cette musique. Mais quand vous suivez aussi les cantiques spirituels, quand vous suivez la musique chrétienne, la même manière votre cerveau vous aussi réjouit ça. Suivant même votre train de penser à autre chose, mais dans votre background, derrière, il y a cette musique qui joue. Vous vous demandez, ah, oh, je suis en train de chanter. Souvent, vous ne savez même pas. Souvent, vous dormez, parce que votre esprit est en train de chanter une chanson, la chanson chrétienne. Mais c'est dangereux quand vous dormez, votre esprit en train de chanter des chansons mondaines. Ça, c'est dangereux. Donc, quand vous chantez cela en vous, ça attire une atmosphère spirituelle. Parce que la Bible dit ceci, dans Psaume 22:3, que tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, que le Seigneur siège au milieu des louanges. Mais de chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, qu'on a cette chanson à nous qui glorifie le Seigneur, qui élève le Seigneur. Et c'est tout le temps à nous. On est en train d'avoir cette communion avec le Seigneur. On est en train d'inviter le Seigneur où on va. Mais notre esprit est en train de capter cela et chanter, mais sans qu'on le sache. Ça attire une atmosphère spirituelle. Ça attire une paix. Ça relâche une paix. Ça relâche une joie. Donc, ce qui est en train d'être attiré, c'est aussi relâché. Donc, quand vous avez cette joie et vous êtes relâché, il y a aussi une attitude à prendre. Très importante. Parce qu'on peut faire toutes ces choses, mais si on n'a pas fait cette attitude, ça ne sert à rien. C'est comme si vous préparez une très bonne voiture, mais vous ne mettez pas le fer. Mais ça n'aura pas sa valeur. Et cette attitude, en fait, c'est l'amour. Donc, toutes ces choses, on doit mettre l'amour à l'intérieur. Parce que quel est le but des Écritures? C'est de révéler qui est Jésus-Christ. Et Jésus qui parle de qui? Jésus qui gouverne qui? L'amour de Dieu. Et quelle est la réponse à cet amour? Quand on connaît Jésus-Christ, quand on connaît son amour, quand on connaît l'amour de Dieu, c'est qu'il a fait pour nous. La réponse, c'est aussi notre amour. C'est pour ça que la Bible dit qu'en fait, on l'a aimé parce qu'il nous a aimé premièrement. Car il faut cet amour, ça nous conduit à Colossiens 3, 17, qui dit ceci. En quoi que vous faites, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Donc, tout ce qu'on fait en parole, tout ce qu'on fait en parole, tout ce qu'on fait en œuvre, on doit le faire pour le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça la clé. Souvent, on oublie cela. On fait des choses juste pour nous-mêmes. On fait des choses parce qu'on doit les faire. Mais on ne fait pas ça en rendant grâce au Seigneur. On ne fait pas ça. Parce que quand on le fait en fait pour le Seigneur, on rend grâce au Seigneur. Mais quand on ne le fait pas pour le Seigneur, on ne rend pas grâce au Seigneur. Quand on est forcé d'aller travailler le matin, souvent on ne rend pas grâce parce que c'est difficile. Mais quand on sait qu'on va travailler pour le Seigneur, en glorifiant le Seigneur, on rend grâce. Mais quand vous réalisez que ce que vous faites, que c'est d'abord la grâce, que ce n'est pas la grâce de Dieu, que c'est une opportunité que le Seigneur nous a donnée de faire cela, de le servir. Parce que maintenant, on parle comment servir le Seigneur, que tout ce qu'on fait, c'est par rapport au Seigneur. On rend grâce. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce qu'on se voit le matin. C'est une grâce qu'on peut manger. C'est une grâce qu'on peut marcher. C'est une grâce pour le travail. Donc, tout ce qu'on fait, qu'on est chrétien, qu'on entre dans cela, c'est pour le Seigneur. Et on doit rendre grâce. Quand on le fait bien, nous, il y a cette atmosphère. Et ça nous rappelle Jésus-Christ. Il rendait toujours grâce. Il a dit qu'il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Donc, en fait, tout ce qu'il faisait, c'était pour rendre gloire au Père. Donc, ses yeux étaient focalisés sur le Père. Mais beaucoup sont chrétiens. Ils ne s'intéressent pas aux œuvres du Père. Ça ne les intéresse même pas du tout. Ils s'intéressent à eux-mêmes et à leur famille. Pourtant, ici, Paul dit, on doit d'abord faire ça pour le Seigneur. Et quand on réalise ça, les choses deviennent tellement faciles. Donc, quand on se rend compte maintenant, c'est par la grâce et pas par la force. Quand on fait les choses de nous-mêmes pour accomplir nos propres désirs, on s'efforce, on cherche, on fait les choses avec notre propre force. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais quand on sait qu'on le fait pour le Seigneur, on sait qu'il va pouvoir. On sait que c'est lui qui pouvoir. Les choses deviennent faciles. Parce qu'il est au contrôle. Parce que c'est lui qui conduit. Donc ici, gardons cela. Verset 23 du ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et cela, c'est le résultat, en fait, de notre amour pour le Seigneur. Et qu'on a cet amour pour le Seigneur, quand on répond à son amour par notre amour, en fait, c'est qu'on veut faire, c'est le Seigneur. Qu'est-ce qui est là pour toi? Qu'est-ce qui te préoccupe? Quelles sont les choses aussi sur la tête qui te dérangent? C'est pas que je veux le faire parce que, pour gagner ton amour, parce qu'il nous aime déjà. Mais c'est juste par amour. Juste par amour. Et c'est de ces désirs-là que vous pouvez dire, en fait, maintenant, vous le faites pour le Seigneur. Donc, quand vous marchez dans cette relation de l'amour, quand vous comprenez cet amour, quand vous embrassez cet amour, les actions que vous faites sont dans cet amour. Et maintenant, vous faites tout pour le Seigneur. Donc, on a maintenant, on voit les applications de cela. Dans certains cas, comment appliquer cela? Que Paul aussi parle de cela. Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent être, que ce soit dans le worship team, qui peuvent parler en langue, qui sont à l'église, qui dirigent les louanges, remplis. Ils ont cette atmosphère spirituelle. Ils ont cet amour pour le Seigneur. Mais dès qu'ils arrivent à la maison, mais c'est incroyable. L'atmosphère est paralysée. Rien ne marche. C'est comme si toute l'onction, toute cette atmosphère restait dehors. À l'intérieur, c'est difficile. C'est difficile. Mais Paul va nous montrer, en fait, par la grâce, comment opérer, comment marcher dans cette atmosphère, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail. Beaucoup font ça avec cette atmosphère hors du travail. Mais quand ils arrivent au travail, l'atmosphère paralysée. C'est comme si c'était plus chrétien. Pourtant, il a cet amour pour le Seigneur. Pourtant, il opère dans cela hors du travail. Donc, il y a en fait des directives, des directions que par la grâce de Dieu va nous révéler comment fonctionner dans ces domaines. Livre des ingrédients pour installer, pour marcher dans l'atmosphère divine, dans ces lieux. C'est le même problème que les Colossiens avaient. C'est là que Paul va donner ses instructions. On va commencer par la famille. Et quand on parle de la famille, bien aimé, autant de fois, en fait, quand on parle de famille, c'est pas juste mari et femme, mais un, deux enfants, c'était un peu de ça. Il y avait le mari, il y avait la femme, il y avait les enfants, il y avait les grands-parents, il y avait les esclaves, même les frères et ceux qui ne sont pas mariés. Donc c'était pour moi, c'était comme un village. La maison était vraiment remplie. Voici les instructions que Paul dit. Dans le verset 18, il dit ceci. Dans le cas de la famille, comment marcher dans cette atmosphère dans le mariage. Il dit, femme, soyez soumise à vos maris. Comme il convient dans le Seigneur. Ils sont sous nous dans le Seigneur. Et cette c'est un peu un territoire délicat. Mais rends grâce à Dieu que c'est sa parole. Et que dans certaines sociétés, dans certains endroits, ces thèmes sont vraiment combattus. En fait, mais ces thèmes sont un tabou. On ne veut même pas écouter ce mot soumis. Mais bien aimé, le mariage est très important. On sait que c'est une institution divine. Elle a été instituée par Dieu. Et c'est même le premier ministère de l'homme. Il y a l'homme, le Seigneur. Et après, c'est le mariage. Après les enfants, après le ministère extérieur. Donc ça prend une place prioritaire. Donc si dans ce ministère, si dans ce domaine, ça dérange, ça a des perturbations, si ça ne marche pas, presque tous les autres domaines sont affectés. Et c'est souvent là que l'ennemi attaque, quand l'ennemi vous attaque partout là où ça n'a pas marché, c'est là qu'il va attaquer. Vous n'avez pas cherché votre conjoint. Donc il y a beaucoup qui sont dans ces problèmes, donc, c'est-à-dire, ils ne veulent même pas rentrer à la maison. Parce qu'ils connaissent la tension et l'atmosphère qu'il y a à la maison. Donc, tu veux rentrer quand le monde dort. Donc, c'est difficile. Donc, la Bible dit que la femme doit être soumise à l'homme. Et dans les pays occidentaux, c'est tabou. On ne veut pas en parler. Et on dit qu'il y a égalité dans les sociétés des pays occidentaux. Mais c'est important de savoir ce que le créateur du mariage a dit par rapport à cela. Pour qu'il parle ici de soumission. C'est vrai que l'homme et la femme, ils sont égaux. Mais lui, Dieu, dans sa sagesse infinie, a donné des différents rôles. C'est quand vous partez au travail, vous avez des différents rôles, vous tous, vous avez le même droit, vous êtes égaux, mais vous avez des différentes positions. Et à chaque position, vous avez certains privilèges, vous avez certaines actions, vous avez certaines choses que vous pouvez faire, que vous ne pouvez pas faire. Et dans l'institution du mariage, Dieu fait la même chose. Il établit l'homme comme chef, il établit la femme, et dans ses relations avec la femme, doit être soumis. Dans cette soumission. Et quand on parle de soumission, c'est pas parce que notre mari est parfait. Donc, beaucoup de temps, on veut écouter que la femme, elle se rebelle parce que le mari n'est pas parfait. Mais la Bible n'a pas dit cela. Mais Jésus avait toutes les raisons pour ne pas partir à la croix. Quand on parle de raisons, Jésus-Christ avait toutes les raisons pour ne pas partir à la croix. Parce qu'il est parti à la croix qu'on est encore ennemi avec Dieu. On n'était pas réconcilié avec Dieu. On n'était pas amis avec Dieu. Donc, ce n'est pas une question de raison, mais c'est une question d'obéissance. C'est pour ça qu'on a dit qu'on doit tout faire pour le Seigneur. Donc, ce n'est pas parce que notre mari n'est pas Jésus-Christ qu'il n'y a pas la soumission. Et même certaines personnes, même si le mari c'était Jésus-Christ, ils ont tout cherché les raisons. Mais parce que Jésus-Christ était sous la terre, il y a des gens qui ont résisté Jésus-Christ à cause de l'état de leur cœur. Même Jésus-Christ était en personne, il devait toujours avoir des raisons. Donc c'est pas qu'ils sont des raisons, c'est qu'ils sont d'obéissance. Est-ce qu'on est prêt à obéir et à faire confiance au Seigneur? Colossiens 3, 17, Colossiens 3, 23. On le fait pas pour l'homme, pas pour le mari, pour le Seigneur, premièrement. La soumission, c'est pas parce qu'on aime l'homme d'abord. La soumission, c'est pas pour les enfants d'abord. La soumission, c'est d'abord parce que Dieu l'a dit, c'est pour le Seigneur, c'est pour rendre gloire au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il y a pour rendre gloire? Action des grâces. Et c'est là souvent que ça peut être difficile. Parce que même étant soumis, on rend des actions des grâces. Merci Seigneur pour cette position. Merci Seigneur pour cette position. Quand on n'opère pas dans cela, en fait, ce qui se passe, c'est que on quitte notre position, on quitte notre atmosphère divine, on sort de cela. Et ce qui fait que les choses deviennent plus difficiles, Parce que maintenant, décider d'être en charge, eux de laisser Dieu s'en occuper. Donc Dieu a donné une priorité à chacun d'entre nous. Et si dans le mariage pour les femmes, est-ce que vous restez dans cette position? Il y a aussi une vision de soutenir le mari, de soutenir la vision du mariage, d'aider, d'accompagner la vision de la famille. Donc c'est le dynamisme du mariage, comment garder cette atmosphère. Parce que quand Adam, en fait, a été, quand Adam a été créé, a donné une mission à Adam, a donné une vision à Adam. Donc, quand Ève est venue, Adam faisait déjà quelque chose, Adam allait déjà quelque part, Adam avait déjà une direction divine. Donc, elle est venue pour l'aider. She's a helper. Donc, Dieu a envoyé elle pour aider Adam dans sa direction que Dieu avait pour leur mariage. Donc, c'est si important que la femme capte la direction divine pour le mariage, pour la famille, d'assistement dans cela. Une femme qui est soumise à son mari, c'est un mariage qui est vraiment puissant. Il y a cette atmosphère qui est dégagée. Les choses avancent rapidement, mais une femme qui freine son mari, c'est vraiment triste. Donc, votre femme est appelée à être votre plus grand supporteur. Le plus grand supporteur de son mari. Mais s'il ne fait pas attention, elle peut devenir le plus grand obstacle. Le plus grand obstacle. Donc, faisons le mariage selon le Seigneur. Donc, ça, ce sont les directions qu'on peut donner à la femme pour avoir cette atmosphère divine à la maison. Donc, on ne le fait pas à cause de nous, pas à cause de son conjoint, pas parce que le pasteur l'a dit premièrement. On le fait parce que je l'ai dit à cause de Dieu, à cause de la direction de Dieu. N'oublions pas toujours de rendre grâce. Dans notre raison principale, le premier layer, la première fondation, le premier niveau, Colossiens 3, 17 ou 3, 23, pour le Seigneur. En rendant grâce. Et maintenant, Paul parle maintenant de mari, toujours dans le mariage. Comment avoir cette atmosphère? Il dit, mari, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Comment l'homme manifeste cet amour? C'est une question. Parce qu'on dit amour, c'est quel genre d'amour? Il y a plusieurs sortes d'amour. Agaparophilie, il y a plusieurs. C'est de quel amour aussi que Paul parle? Et qu'est-ce que de satisfaire tous les désirs de la femme, les sentiments de la femme? C'est pas ça que Paul parle. Donc, quel amour aussi parle? Si vous voulez Éphésiens 5, verset 21, Paul va bien détailler cela. On va parler trop en profondeur. Donc, si on parle, quand on parle de l'amour, ici, c'est associé aussi à une direction. C'est aussi associé à une mission. Dans le sacrifice, quand on parle d'amour, on parle de sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé qu'il a sacrifié. Donc, l'homme a tant aimé qu'il doit aussi sacrifier. Mais si on parle aussi de sacrifice. Dans l'amour, sacrifice. Mais à quel niveau? Donc, c'est pas un amour de sentiment. Si on regarde la définition de ça en grec, en fait, c'est l'amour agapao. C'est agapao, c'est que c'est l'amour de Dieu. C'est pas un amour de sentiment, en fait, c'est que tu me tapes, je te tape. Mais tu me déranges, je te dérange. Mais tu m'as fait ceci, je ne fais plus. Parce que je ne sens pas ça. Ou je n'ai pas préparé la nourriture, bon, je suis parti comme ça. C'est ça les sentiments. Tu n'as pas préparé la nourriture, tu n'as pas été soumis, plus d'argent de la semaine. C'est ça les sentiments. Ici, c'est pas, Dieu ne parle pas de cela. C'est amour agapao. Amour agapao, ça ne dépend pas des sentiments. C'est les sentiments. Jésus-Christ ne veut pas être à la croix. C'est obéissant. C'est un amour qui va au-delà des sentiments. C'est un amour qui est éternel. Lisez 1 Corinthiens. Alors, je pense que c'est 13. On va parler de la définition de l'amour. Patience. Calme. Elle n'échoue jamais. Donc, en fait, cet amour, en fait, ça ne dépend pas du comportement de l'autre. C'est ça. Donc, quel que soit ce que l'autre va faire, cet amour, en fait, ça ne change pas. Parce que Dieu, cet amour était manifesté en Jésus-Christ. On était toujours ennemis à Dieu. Donc, ça ne dépendait même pas de nous. Donc, cet amour ne dépend même pas de nous. On doit juste accepter cela. Parce que Dieu a manifesté cela. Donc, comme on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il nous aime. La même manière que Dieu nous aime, la même manière qu'il aime le pécheur, la même manière qu'il aime les grands voleurs, les grands bandits, la même manière qu'il aime Jésus-Christ, la même manière qu'il nous aime. Donc, ça, en fait, ça ne dépend pas de la personne. Et ici, c'est de cet amour que Dieu a de parler pour l'homme. Donc, quand l'homme opère dans le mariage, l'atmosphère, pourquoi cette atmosphère, c'est très en fait, il faut dégager ce genre d'amour. Un amour agapé. Et voici maintenant, en fait, c'est que où le Seigneur conduit l'homme à agir. Les directions, les directions que le Seigneur donne à l'homme, parce que c'est pas juste général. Dieu aussi donne une position bien précise. Le mode d'emploi, comment manifester cet amour dans le mariage. Et la Bible parle enseignement. Donc l'homme appelé à enseigner. Souvent c'est difficile. Souvent c'est difficile. Mais l'homme est appelé à être enseignant à la maison. Parce que c'est lui le chef. Donc celui qui enseigne la parole de Dieu. Donc si on n'enseigne pas, et souvent si l'homme a des raisons, ma femme ne veut pas écouter, elle est perceuse, tout. On enseigne, nourrit. L'homme est appelé à nourrir, à pouvoir pour la famille. Ça, c'est le rôle de l'homme. Pouvoir dans le mariage. Un homme qui pouvoir. Chérie, appelé à chérir sa femme. Laver sa parole avec la parole. Les paroles positives. Les paroles qui lèvent. Les paroles qui buent, qui lèvent la femme à la purifier. La Bible dit en fait, quand ce mariage devient un seul corps, et qu'on doit l'aimer comme un autre corps. Et Paul dit, mais qui en fait déteste son corps? Donc il dit un peu que si on déteste notre femme, on est en train de détester notre propre corps. Donc c'est à ce point que les deux sont unis. Donc il doit voir l'amour doit radier de nous. Donc c'est dans ce domaine en fait que l'homme a, que Dieu appelle l'homme à opérer. Donc je n'ai pas dit qu'il ne faut pas laver les assiettes. Donc votre femme aime que vous lavez les assiettes, non, c'est entre vous. Parce qu'il y a des cas en fait où la femme est fatiguée, la femme a tellement travaillé, mais l'homme assis sur le canapé en train de voir le match de football, il n'est pas sûr que la femme est là pour m'aider, je n'aime pas. C'est pas ça ici qu'on parle. Il faut assister. D'ailleurs aussi des cas où qu'on a parlé où l'homme peut décider de ne pas faire quelque chose. Parce que la femme n'a pas fait quelque chose. On en voit ça beaucoup. Donc l'homme n'a pas fait quelque chose. La femme n'a pas fait quelque chose. L'homme dit qu'il ne fait pas. Et dans ce sens, lorsque le Seigneur nous demande, si on écoute la voix du Seigneur, on nous dit de laisser. Et je suis le Seigneur, on doit en fait faire confiance au Seigneur pour qu'il agisse. Ça va comme possible de l'humilité. Parce que Jésus-Christ est humilié. Donc souvent quand on te dit chef, on ne veut pas aussi s'humilier. Vous savez, Jésus-Christ était chef, il s'est humilié au dernier de Dieu. Une humiliation vraiment terrible. Il n'y a plus une humiliation qui est pire qu'une humiliation de Jésus-Christ. Donc, que la femme soit soumise, que la femme ne soit pas soumise, on doit aimer, on doit pouvoir, on doit chérir. On doit enseigner qu'elle est soumise ou pas. La Bible n'a pas dit que si on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. La vie n'a pas dit cela. Paul n'a pas mis condition. Parce que l'amour agapao, en fait, aime à tout temps. Tout le temps. Et souvent, vous allez voir des cas où, en fait, il y aura cette, la maison sera paralysée, où l'homme ne va pas faire quelque chose, la femme ne va pas faire quelque chose, il y aura des disputes, on va passer voir le pasteur va lui donner conseil, et la femme va dire, je fais ça à cause du pasteur. Ou l'homme va dire, je fais ça à cause du pasteur. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Paul a déjà dit dans Colossiens 3, 23 et 17, qu'en fait, ce n'est pas à cause du pasteur qu'on fait cela, c'est d'abord à cause de Dieu. C'est-à-dire qu'on a raté cette compréhension et qu'on n'a pas enregistré cela. C'est d'abord à cause de Dieu. Et souvent, on est dans cette situation qui est paralysée. Donc, en fait, quand on aime notre femme, malgré tout ce qu'elle est en train de faire, c'est pas d'abord pour elle. C'est pas d'abord pour les enfants. Là, elle est en train de rabaisser la barre. Qu'on prend le temps pour enseigner, on prend le temps, en fait, que ce soit pour chérir, que ce soit pour pouvoir à la maison. Ce n'est pas d'abord juste à cause de la femme. C'est pour ça que c'est important que la relation de mariage d'abord, mais avant que homme et femme, avant d'avoir cette relation horizontale, il doit avoir cette relation verticale entre personne et le Seigneur. Quand il y a cette relation, quand il y a cet amour, on se rend compte qu'on est en fait un bon mari parce qu'on a une bonne relation avec le Seigneur. On est une bonne femme parce qu'on a une bonne relation avec le Seigneur. Parce qu'on fait ces choses pas à cause de nous, de la personne, mais d'abord au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Dieu. Les choses ont commencé à s'ouvrir. Donc c'est à cause de Dieu. Donc quand on sait, n'oublions pas de remercier le Seigneur. Quand on pourvoit, il y a action de grâce. Paul a dit action de grâce. On dit merci Seigneur. Même quand c'est difficile, merci Seigneur. Quand la femme est soumise, merci Seigneur. On rend grâce au Seigneur. Donc, ça, c'est soit un peu la direction pour avoir cette atmosphère divine, pour avoir ça dans la maison, pour avoir ça dans le mariage. Vous allez remarquer, si vous faites votre part, même si le conjoint ne fait pas sa part, ça ne va pas, en fait, vous influencer. Ça ne va pas lever cette atmosphère parce que maintenant, vous êtes toujours positionné. Vous êtes toujours dans votre position. Vous le faites toujours au nom du Seigneur. Vous opérez toujours dans votre couloir. Donc, il y aura toujours cette atmosphère. Donc, que ce soit la femme, dans la soumission, que ce soit l'homme, dans la provision, dans l'enseignement, même s'il n'y a pas, même si l'autre personne n'opère pas dans cela, il y aura cette paix. Maintenant, parce que vous êtes dans votre position, l'atmosphère qui est autour de vous, le peuple vous influence. Avant, ça vous influencer parce que c'était facile pour vous de quitter de votre position. Maintenant, quand vous restez, vous êtes mature, vous êtes enraciné, quelle que soit l'atmosphère, c'est autour de vous, il y a toute cette atmosphère qui est divine. En fait, même souvent, vous allez voir que les paroles, maintenant que vous remarquez, sont des paroles de grâce. En fait, ce sont les paroles, quand ça sort, ça diminue même l'atmosphère qui est autour de vous. Ça change même l'atmosphère qui est autour de vous. Si l'atmosphère était tellement facile, la personne envoie des paroles de feu, la personne attend que vous que vous aussi, vous envoyez des paroles de feu. Mais quand vous êtes dans votre position, vous parlez par des grâces, ça va mettre la personne qui m'a fait, qu'est-ce qui se passe? Ça va diminuer le niveau de la personne. Donc il faut être enraciné dans votre position. Donc, quel que soit le fait que vous trouvez, c'est plus entre vous et le Seigneur. Et vous allez remarquer cela. Le Seigneur sera venu. Donc, il y a beaucoup à dire à ce sujet. Alors, ça, c'est un sujet qui peut prendre une série peut-être de 3 mois. Mais ça, c'est juste l'introduction. Éphésiens 5 va plus en profondeur. Il y a aussi des cas qui sont spéciaux. On va en parler aujourd'hui. Donc, beaucoup de temps, on cherche ces cas spéciaux. Les chrétiens cherchent ces cas spéciaux. Pourtant, mais les cas élémentaires, ils ne connaissent pas. Donc, 10 jurons d'abord les cas élémentaires avant de passer aux cas spéciaux. Sauf un enfant du cieux 1, cieux 2. On dit 1 moins 2. Il dit que ça ne se peut pas. Donc, c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il applique. Donc, si on veut tous ceux, on veut faire les intégrales. Donc, restons à digérer, que le Seigneur aide à digérer, à comprendre comment, en fait, marcher dans cette atmosphère dans le mariage. Il y a même souvent aussi des cas, c'est pour se remarquer, prendre toute l'atmosphère, que vous pouvez partir, ceux qui sortent, ceux qui font l'évangélisation, ceux qui font beaucoup de prières. Souvent, quand vous arrivez quelque part, c'est comme si vous avez pris possession de parce que votre atmosphère, que vous avez un peu, c'est comme si les lieux vous appartiennent. Je sais pas si vous voyez souvent quand les films, quand un agent du FBI vous partez, vous voyez une personne, ou arrêtez quelqu'un, avant même qu'il arrive à la porte, il y a des agents qui entourent la maison, qui entourent le quartier, donc, tout est déjà saisi. Souvent, c'est qui se passe le plan physique. Quand vous sortez, en fait, pour faire la bonté, pour être obéissant au Seigneur, quand vous restez dans votre position, quand si vous, les choses sont déjà, il y a cette grâce, à cette atmosphère qui est rassurée. Même dans la prière. On va aller rapidement, je pense qu'on va continuer. Pour les enfants. L'atmosphère divine avec les enfants. Paul dit ceci, verset 21. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Ici, c'est maintenant l'enfant doit obéir. Ici, c'est pour la soumission. Il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. L'enfant obéit parce qu'il ne connaît même pas la vision du Père. Il est juste l'obéissance sans connaître la direction, la vision. Mais qu'on est soumis, c'est qu'on supporte une vision. Mais si Paul parle de l'obéissance, que les enfants doivent obéir. Donc, on doit prendre l'obéissance de l'enfant dès le bas. On va les instruire à travers la parole de Dieu pour que plus tard, ils se fassent croire. Les versets sont Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. Étant aussi parents, on ne doit pas hériter les enfants. Il y a beaucoup qui héritent les enfants à moins de choses qui sont à l'école. L'enfant ne comprend même plus. On peut les hériter, ils ne comprennent. C'est qu'eux-mêmes, ils sont découragés. Donc, pour nous encourager, étant parents, n'est pas les hériter. Donc, on a toujours en fait cette balance. Pour le Saint-Esprit. Alors, rapidement, maître et serviteur, pour dire ceci, serviteur, obéissant toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Ici, c'est entre la relation entre superviser votre manager et vos postes de l'obéissance. Et ici, pour son effet, que c'est pas parce que le manager est avec vous, vous allez bien faire les choses, mais qui n'est pas là, vous ne faites pas. Donc, qui sont là, qui ne sont pas là, en fait, mais qu'est-ce qu'on te dit? Qu'on doit faire ces choses pour le Seigneur. Et souvent, beaucoup de chrétiens, ils travaillent, pas, ils ne regardent même pas le Seigneur, en fait. Ils cherchent les moyens pour déjouer. Si le superviseur n'est pas là, et bien, c'est ça qu'on peut attrister. C'est quand le superviseur est là qu'il est correct. Et quand le superviseur n'est pas là, il coupe. Il y a aussi d'autres qui font les choses avec tellement de négligence. Mais quand on s'en rend compte, en fait, le travail qu'on fournit, c'est pour le Seigneur. C'est-à-dire que ce qui va sortir avec ce sera droit, ça sera élégant, ça sera bien fait, et ça va glorifier le Seigneur. Donc les œuvres de nos mains, le travail qu'on fait, ça doit être des œuvres pour aussi glorifier le Seigneur. Donc, ça doit montrer, dans cela, on doit voir une excellence. Parce que c'était fait pour le Seigneur. Les chrétiens ne sont pas appelés à être, non, excellents, appelés à être médiocres. Parce que si on se rend compte que les actions qu'on est en train de faire, c'est pour glorifier Dieu, c'est pour élever Dieu, on va faire de notre mieux. On va faire tout notre possible pour que ce soit excellent. Je n'ai pas dit parfait, mais excellent. Et aussi, on va honorer notre manager. On doit prier pour les malades. Paul dit, prier pour les leaders. Bon ou mauvais, prier pour les leaders. Donc, on doit les honorer. Parce que Dieu a permis qu'ils soient au-dessus d'eux. Il y a beaucoup à dire, mais je pense qu'on va garder ça pour la prochaine fois. Alors, le temps est un peu avancé. Je peux juste donner une conclusion aussi. Dans ce que Paul a dit, beaucoup de personnes ne jugent pas autrement ce français, dans les cultures occidentales. Et ils pensaient que Paul en fait devait, ils pensaient que Paul en train de défendre le statu quo, en train de défendre les normes qui se passaient tout autour de lui à son époque. Lui s'attendait en fait, beaucoup pouvaient s'attendre que Paul en fait change la structure sociale de son époque. Mais la soumission dont il parle, que l'époux doit être soumis au mari, ou cette obéissance des enfants esclaves, cela est approprié dans le royaume de Dieu. C'est ça la structure dans le royaume de Dieu. Ils sont égaux, mais ils ont des rôles différents. Et il y a aussi l'autorité. Dans cette autorité que l'homme, que Dieu a donné à l'homme, que Dieu a donné aux parents, l'homme est aussi sous autorité. L'homme a aussi fils comme autorité. Donc Dieu a vraiment capturé cette vision divine. Parce que même dans l'Ancien Testament, quand on parle de mari, de père ou de mère, ce sont les termes qui étaient aussi utilisés dans l'Ancien Testament pour décrire la relation entre Dieu et son peuple. C'était mari, père et mère. Donc Paul a capturé cette vision. Elle a aussi dit dans Colossiens 3 qu'on a vu, aussi dans Éphésiens 5 qu'on a vu. Donc, par la grâce de Dieu, pour manifester cette atmosphère, on doit suivre cette direction. Et aussi, comment manifester cette atmosphère, une atmosphère avec puissance, comme Jésus-Christ a dit. On va le voir plus tard. Sûrement la semaine prochaine, ou dans ce message de Jésus-Christ. Amen.